Vous écoutez France Culture.
Premier temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux colonisations et plus particulièrement à la comparaison de ces colonisations dans une période historique particulière, les années 1920-1930. Nous poserons la question de savoir d'ailleurs si cette période est considérée comme une sorte de sommet de l'époque coloniale. C'est la période des grandes expositions coloniales, quand les colonies s'exposent pour la Grande-Bretagne à Wembley en 1924, pour la Belgique à Anvers en 1930 ou encore à Paris pour l'exposition coloniale internationale de 1931. Demain, nous traiterons justement de cette période des années 20 en France et en particulier autour du cas d'un marathonien qui remporta en 1928 les Jeux Olympiques d'Amsterdam dans le marathon. Il s'appelait El Wafi et le documentaire d'Yvan Gasteau et de Renaud Dalmar se posera la question de savoir si sa mémoire est réclamée par les Algériens ou par les Français aujourd'hui. Mercredi, eh bien, le débat portera autour de la question de la colonisation italienne voulue par Mussolini et plus particulièrement de l'expédition d'Éthiopie. Jeudi, nous traiterons de la colonisation britannique avec Pierre Saint-Garavelou, Philippe Chassaigne et Armel Enders. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir David Van Reybroek. Il est historien, archéologue, écrivain, journaliste aussi. Et il vient de publier chez Actes Sud un formidable livre qui s'intitule « Congo, une histoire ». Il raconte, à partir d'entretiens qu'il a enregistrés dans l'ex-Congo belge, mais également de toutes les lectures qu'il a pu lire sur cette période, il raconte ce qu'est l'histoire du Congo. Il est avec nous. De ces premiers temps, on ne voit pratiquement plus les traces à Kinshasa. Mais lors de mon tout premier voyage au Congo, en décembre 2003, j'ai eu accès au vieil entrepôt d'autobus de la ville dans le quartier de Limete. Les bus ne circulaient plus depuis longtemps dans la capitale. Les quelques exemplaires cassés qui étaient encore sur place avaient été transformés en logements où vivaient plusieurs familles. Du linge était suspendu à sécher aux essuie-glaces. Les habitants dormaient sur les vieilles banquettes, les bras enveloppant les tiges en aluminium. À l'ombre d'un moyau de rue ou d'un capot bêlait une chèvre invisible. La nature reprenait le dessus dans cette zone industrielle abandonnée. Après avoir marché un certain temps, j'ai aperçu dans l'herbe, une œuvre d'art postmoderne extrêmement singulière. Jamais je n'avais vu auparavant installation plus extravagante associée à des réminiscences historiques. Dans un bateau en acier rouillé, un personnage en bronze qui faisait bien 4 mètres de haut était étendu sur le ventre. Je l'ai aussitôt reconnu. C'était la statue triomphante de Stanley qui, pendant des décennies, au sommet de la colline de Ngaliema, avait porté son regard martial au-delà du fleuve. Conçue et coulée à Molenbeek, près de Bruxelles, elle avait été expédiée par bateau dans la colonie pendant la période coloniale, mais après l'indépendance, elle avait été retirée de son socle. Et il gisait à présent ici notre Stanley. Voici un extrait de votre livre dans une traduction donc signée Isabelle Rosselin. Ce livre s'appelle « Congo, une histoire ». David Van Reybroek, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous depuis les studios de la RTBF. En l'occurrence, vous êtes l'auteur de ce livre qui est une véritable somme, une traversée, pourrait-on dire, de l'histoire du Congo sur la durée de 150 ans, mais même un peu plus, puisque vous évoquez le Congo originel, bien avant l'arrivée des Européens. Et vous racontez avec ce style si particulier, qui est un style qui mélange l'histoire et une tradition de grands reporters journalistiques, ce qu'a été ce pays, comment vous l'avez vu. C'est un livre que vous avez conçu évidemment pour le 50e anniversaire de l'indépendance de ce Congo ex-belge, David Van Reybroek. Et évidemment, cette scène est frappante. Elle est aussi frappante que toutes ces statues de Lénine qu'on a pu trouver après la chute de l'URSS dans des parcs à thème qui étaient abandonnés, gagnés par les herbes sauvages en l'occurrence.
Tout à fait, tout à fait. Je me souviens encore très bien du moment où j'ai retrouvé cette fameuse statue. C'est une statue monumentale. Il s'agit vraiment d'une sculpture exceptionnelle. Mais voilà, le Stanley, un peu accouché dans son propre bateau. Donc il y a là le bateau en acier historique, le bateau avec lequel Il a navigué le fleuve Congo dans les années 1870, 70, je dois dire, c'est bien la radio française. et c'était assez bizarre de voir la référence artistique coloniale dans son bateau original. C'était vraiment un assemblage, un bricolage post-moderne très particulier.
Alors, ce livre est une véritable saga, pourrait-on dire, parce que on y croise des dizaines de noms, des centaines de noms, et tous ceux qui ne sont pas habitués à l'histoire du Congo ex-belge, croisent des noms qu'ils ne connaissent pas, des régions qu'ils ne connaissent pas, mais en même temps, on s'y retrouve facilement puisque vous avez choisi des guides qui sont là tout le temps, ou presque tout le temps, qui nous accompagnent. Alors, parmi ces guides, évidemment, il y a Nkassi, qui est un très vieil homme originaire du Bas-Congo, que vous avez rencontré à Kinshasa, oui, qui a des souvenirs absolument extraordinaires, et bien d'autres, des gens qui sont morts depuis, mais qui ont laissé des mémoires dans les années 40, dans les années 50, comme Dissasi ou d'autres. Et avec ces guides, évidemment, on finit par s'y retrouver dans cette histoire foisonnante du Congo ex-belge, en l'occurrence, David Van Reybrouck.
Ben oui, tout à fait. En écrivant ce livre, je me suis dit, ce serait chouette si chaque chapitre historique est accroché à une anecdote ou un personnage particulier. Et donc, quand j'ai fait mes recherches au Congo, je suis parti à la rencontre de toute une série de personnes, pas forcément de personnalités, mais très souvent des gens simples, des gens normaux, quoique je n'aime pas trop le mot ordinaire ou normaux, ou parfois sont des gens vraiment extraordinaires. Moi, je suis convaincu d'une chose, je trouve que la grande histoire s'exprime toujours ou s'exprime mieux à travers les vies des gens simples. Voilà, c'est vraiment, comme disent les anglo-saxons, « a history from below », une histoire d'en bas. Et ça permet de mieux comprendre les enjeux, le vécu, le quotidien. Et donc moi, je voulais trouver une personne pour chaque chapitre. Et ce n'est qu'en faisant mon travail que je me suis rendu compte, mais attendez, quelqu'un qui a bien vécu les années 50, et moi je l'interview en 2010 ou 2009, il n'a pas non seulement vécu dans les années 50, il a aussi vécu l'indépendance en 60, il a vécu l'époque de Mobutu dans les années 70. Et donc c'était très chouette, dans l'écriture de mon livre, de pouvoir revenir sur un certain nombre de personnages que j'avais évoqués dans des chapitres particuliers.
Et vous avez été surpris de la mémoire, en l'occurrence, de ces personnages, puisque, en fait, non seulement ils sont témoins d'une époque, mais ils ont entendu leur père, ils ont entendu leur grand-père ou leur mère leur raconter ce qui s'était passé avant eux. Et d'une certaine façon, ça vous permet de nous plonger dans le tout début de la période coloniale au Congo, en particulier dans ces années 1870-1880, par l'intermédiaire de ces personnages qui ont des souvenirs. Et si ce n'est pas leur propre souvenir, c'est le souvenir de leurs parents, David Van Reybrouck.
Effectivement, et dans une culture où la tradition orale est importante, ce qu'on raconte, ce qu'on transmet est effectivement bien, bien important. Ça donne des renseignements sur l'époque originale, mais aussi sur la perception de cette époque particulière plus tard. Donc c'est toujours fort intéressant. Mais dans mon livre, quand j'ai dû commencer à parler du tout début, les premiers contacts et tout ça, moi j'étais convaincu que je n'allais pas trouver des documents particuliers qui donnaient la perspective africaine. Parce que ça, c'était vraiment l'enjeu de mon livre, c'est de faire parler des Congolais et des Congolaises. Et à mon grand bonheur, j'ai trouvé un texte complètement oublié, un tout petit livre qui a été publié en tout petit tirage au Congo même, qui contient la mémoire de Dissasi Makulo. Et c'est
un jeune esclave, oui. C'est ça ?
Tout à fait, qui a été fait esclave par des esclavagistes afro-arabes venant de Zanzibar, et puis qui a été soi-disant libéré par Stanley, une autre façon de dire qu'il a été racheté en tant qu'esclave par un autre esclavagiste qui était Stanley à cette époque. Et donc, il a vécu cette tension entre deux entreprises commerciales, c'est la traite afro-arabe et la traite négrière qui était toujours là à la fin. Quoique Stanley avait un discours philanthropique et Léopold II l'a complètement répété, on voit très bien dans le document de Dissasi Makulo qui a été tout simplement racheté. Voilà. Et il passe dans le bateau, il passe devant leur village et Stanley lui dit on va pas nous arrêter devant votre village, vous venez avec moi. Et ce monsieur, il est venu le premier assistant, le premier agent colonial, qui est un grand ami de Stanley, qui est un Britannique aussi, à Kinshasa. Kinshasa est encore une plaine marécageuse avec quelques huttes. Et donc, il a été là tout au début. Plus tard, il est devenu un des tout premiers à être dans la clergé protestante. Donc il s'est fait baptiser, il est devenu partie de la clergé protestante africaine. C'était une figure tout à fait passionnante et son histoire a été retrouvée et je l'utilise dans le premier chapitre de mon livre.
Alors, ce qui est intéressant, et nous allons nous cantonner justement à cette fin du 19e siècle et à la toute fin des années 20, puisque c'est le principe de cette semaine de la Fabrique de l'Histoire sur les colonisations comparées, en l'occurrence, David Van Reybroek, c'est de dresser déjà la figure de celui qui crée cette colonie, à savoir Léopold II, qui dit un jour, il se réveille en disant « Il faut à la Belgique une colonie ». Voilà donc un pays récent, né quelques dizaines d'années auparavant, la Belgique, qui avait proclamé son indépendance. Vous écrivez avec beaucoup d'ironie « C'était un grand pas en avant pour les Belges, un pas insignifiant pour l'humanité ». Et en Afrique centrale, cela n'empêchait personne de dormir la nuit en 1830. Ça empêchait beaucoup de gens de dormir ensuite, à la fin du 19e siècle, David Van Reybroek.
Ben, tout à fait. On voit comment un petit royaume, qui est la Belgique, né en 1830, a eu comme deuxième roi le roi Léopold II, un gars nettement plus ambitieux que son père, le Léopold Ier. Léopold II, tout jeune, disait déjà « il faut à la Belgique une colonie ». Il s'était fait fabriquer un presse-papier dans lequel on avait gravé cette fameuse phrase « il faut à la Belgique une colonie ». Et donc lui, il a entamé toute une recherche pour trouver une colonie digne de son royaume. Et il y a une phrase classique, à un moment donné, il a dit à un de ses assistants « est-ce que tu ne peux pas te renseigner pour voir si les Philippines ne sont pas à vendre ?» Donc voilà. Et donc il a regardé la Chine, il a regardé les Philippines, le Limbourg hollandais, on l'avait perdu. Et lui, il trouvait la Belgique commençait déjà à s'effriter. Il y avait certains morceaux qui étaient perdus, notamment le Limbourg hollandais. Et il avait l'impression qu'il y avait trop de tensions interne dans cette Belgique de plus en plus petite, des tensions entre des catholiques et des libéraux, les socialistes commençaient à se remuer. Donc lui, il disait, il faut une espèce de...
D'exutoire.
Une espèce de une soupape, il disait même dans un de ses textes, une soupape pour faire sortir la pression interne de la Belgique, parce que il croyait la Belgique une nation bien... avec un élan vital énorme, et donc il fallait bien trouver un endroit pour laisser jouer les enfants, finalement.
Voilà. Alors là, c'est là qu'arrive effectivement la statue de Stanley. C'est donc ce fameux Stanley quand il entend l'expédition de Stanley qui va donc passer d'est en ouest à travers l'Afrique, à cet endroit-là, à cette hauteur-là de l'Afrique, eh bien, il se dit, il faut que je le rencontre. Et il va donc lui recommander une nouvelle expédition dans un contexte où, tout compte fait, les autres pays européens sont assez favorables à la création de cette colonie du Congo, futur Congo belge, donc parce que ça arrange un peu tout le monde qu'un tout petit pays puisse servir de tampon, peut-être par l'intermédiaire de cette colonie, aux puissances coloniales qui se déchaînent en Afrique dans ces années-là, que ce soit la puissance française, la puissance allemande ou encore la puissance britannique, David Van Reybroek.
Bah, tout à fait, d'autant plus que les Français étaient convaincus que Léopold allait avoir un échec important. Et il y avait une condition comme quoi, si Léopold échouait, la France allait reprendre contrôle de ces territoires-là. Donc voilà, ça montre en quelque sorte aussi l'astuce diplomatique de Léopold II pendant la conférence de Berlin de 1885, conférence essentielle pour comprendre l'histoire africaine jusqu'à nos jours. On dit souvent que c'est à cette conférence-là qu'on a divisé le gâteau africain, comme on disait à l'époque, parmi les puissances coloniales. Ce n'est pas tout à fait le cas. On a rédigé les règles de colonisation. Et là, on disait qu'effectivement, quelqu'un pouvait coloniser, mais faire ça juste sur une carte n'était pas suffisant. Il fallait le faire sur le terrain aussi. Il fallait construire une infrastructure. Et deuxièmement, il fallait soutenir le marché libre. Et donc, voilà, c'était une espèce de Schengen, en quelque sorte. Et donc là, c'était vraiment les règles qui sont issues de cette conférence de Berlin de 1885. Et dans les couloirs de cette conférence-là, la diplomatie royale, parce que ce n'était pas encore la Belgique, c'était vraiment les conseillers privés du roi Léopold II qui ont eu beaucoup, beaucoup d'astuces à convaincre les puissances coloniales. Les États-Unis étaient les premiers à convaincre, mais bon, c'était encore un pays insignifiant. Plus important était la reconnaissance de l'Allemagne et de la France. France. Chose faite, à partir... On a fait ça un peu sous le prétexte que ce n'était pas Léopold II qui allait coloniser. Il y avait une association internationale africaine. D'ailleurs, sur le bateau en acier, on voit toujours, on a soudé sur la cale du bateau, AIA, Association internationale africaine. C'était une association internationale philanthropique présidée par le roi Léopold II. Mais on peut dire qu'après la conférence de Berlin, c'était vraiment une colonie privée d'une seule personne qui était Léopold II. Et ça, c'est vraiment unique. On parle de colonisation comparée pendant cette semaine-ci. Ben, je pense qu'il est vraiment important de souligner l'originalité, voire l'unicité totale de ce projet mégalomane de Léopold II. Il n'y a aucun pays où la colonisation a été faite par le chef d'État, voire le souverain.
Sur sa cassette personnelle, même si quelquefois la cassette personnelle du souverain se mélangeait avec la cassette de la Belgique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va faire signer des centaines de traités très rapidement, juste avant la conférence de Berlin, pour se faire reconnaître dans tous les petits endroits où passait Stanley. Eh bien, Stanley et les hommes de Stanley, on faisait signer des traités. Et il disait, il faut que les traités soient aussi courts que possible et qu'en un article ou deux, ils nous accordent de tout. Donc on voit bien qu'il y a là une véritable volonté de prendre sa part de gâteau, en l'occurrence de la part de Léopold
II. D'acheter d'ailleurs pour des caisses de perles. Et donc effectivement, on voit, il n'y a pas longtemps, j'étais au festival Étonnant Voyageur à Brazzaville, et là on voit vraiment des deux côtés du fleuve Congo, il y a eu une action similaire. Il y a eu Savorian de Brazza, militaire italien au service de l'armée française, qui a acheté toute une série de terrains et qui est plus tard devenu la colonie de Brazzaville. Et de l'autre côté du fleuve Congo, même exercice, alors là que c'est Stanley et ses assistants qui remontent le fleuve pour faire signer des contrats signés par des chefs indigènes, comme on disait à l'époque, comme quoi ils donnaient la totalité de leur terrain, de leur territoire, à cette nouvelle puissance. Et donc on saignait avec un petit croix ou avec un peu de sang, et tout de suite après, on montait le drapeau de l'État indépendant du Congo. Alors que ce n'était pas un État, il n'était surtout pas indépendant.
Et très cynique, en l'occurrence, Léopold II prend le porte-drapeau de la lutte contre l'esclavage qui sévissait encore dans la région, en particulier par l'intermédiaire des commerçants swahilo-arabes, comme vous les appelez dans votre livre, David Van Reybrouck, pour dire, écoutez, nous sommes des chrétiens, nous n'acceptons plus cet esclavage-là, et donc nous allons combattre ces marchands d'esclaves, et donc petit à petit récupère à l'est, au sud du Congo, des territoires qui étaient tenus par ces marchands d'esclaves, et au bout du compte, finit par faire un véritable géant au cœur de l'Afrique, un géant qu'il va mettre en exploitation, pourrait-on dire, David Van Reybrouck.
Ben tout à fait, on voit très bien que dans ce contexte, effectivement, le discours officiel, c'était un discours philanthropique, il faut battre l'esclavage. Et puis, en pratique, c'était la concurrence entre deux joueurs, deux agents commerciaux extrêmement puissants. C'était le monde afro-arabe avec son siège principal à Zanzibar, donc les gens qui venaient de l'Est, et puis une reprise de la puissance coloniale côté de l'Ouest de l'Afrique centrale. C'était déjà le cas avec les Portugais à la fin du 15e, début du 16e siècle. Mais donc au courant du 19e siècle, on voit bien une volonté de reprendre, de reconquérir les marchés, si on veut bien, de cet cœur de l'Afrique.
Alors, il a eu relativement de la chance, vous le racontez dans votre livre « Congo, une histoire », David Van Reybrouck, il a eu de la chance, en l'occurrence Léopold II, parce qu'il y va pour récupérer de l'ivoire, parce qu'on est dans un territoire où l'ivoire est très convoité et il y a de grandes ressources en ivoire, et donc le marché mondial manque d'ivoire, donc il y voit une possibilité de faire des affaires par rapport à l'ivoire. Et au moment même où peut-être ces ressources en ivoire commence à décliner, eh bien, arrive l'automobile, arrive le pneu pour les vélos également, enfin, arrive donc le pneumatique et le besoin essentiel de caoutchouc. Or, il se trouve que dans cette colonie qu'il est en train de se tailler sur mesure, eh bien, il y a énormément de caoutchouc et on va donc ainsi, dites-vous, et ça se reproduira un peu plus tard, une fois que Léopold II aura cédé sa colonie personnelle donc, à l'État belge. Il y a des sortes, à chaque fois que le marché mondial a besoin de quelque chose, eh bien, on trouve ce quelque chose sur le sol du Congo belge.
C'est tout à fait la tragédie, en quelque sorte, de ce pays immense et magnifique, c'est d'avoir à chaque moment ce dont l'économie mondiale a besoin. Et c'est déjà à partir du XVe siècle. Alors, la matière première, si je peux le dire, c'était les hommes, les esclaves. Plus tard, l'ivoire. Et Léopold II était presque faillite. Il avait tout mis sur sa colonie, tout son héritage et tout ça. Il était complètement faillite. En 1890, il était déjà question que la Belgique allait reprendre la colonie de Léopold II. Mais c'est à ce moment-là que Dunlop découvre ou invente le pneu gonflable. Et tout d'un coup, il y a une demande mondiale pour avoir accès au caoutchouc. Une plantation de EVA, donc la plante qui produit le caoutchouc, prend normalement 20 ans avant qu'on puisse la récolter. Donc ça, il y a vraiment une c'est un peu comme avec le coltan dans la GSM maintenant. Mmh. Il y a une ruée vers l'or. Et puis voilà, et Léopold II, il a une forêt plein de liens de caoutchouc, il ne faut pas attendre 20 ans, ils peuvent commencer à récolter le caoutchouc tout de suite. Et ça continue, cette histoire. Et donc, du coup, Léopold II a eu un succès commercial immense, mais vraiment immense. Dans 10 ans, une fortune extrêmement importante a été réalisée de pair avec des atrocités extrêmement importantes dans le bassin du fleuve Congo. En 1908, la pression internationale sur son entreprise et sur la cruauté de l'exploitation devient tellement importante qu'il est forcé à abandonner sa colonie. Il n'avait pas du tout envie. Il a fait jusqu'à la fin de sa vie, avant de céder la colonie à la Belgique, à l'État belge, il a encore brûlé ses archives pour qu'on n'allait pas reprocher ce qui s'était passé là-bas. C'était vraiment un moment incroyable de l'histoire nationale belge. Mais alors, plus tard aussi, on voit toujours que le Congo a toujours eu les ressources cruciales.
Oui, alors évidemment, les ressources géologiques plus tard dans le sous-sol, effectivement, on va y trouver toutes les matières dont l'industrie mondiale a besoin au XXe siècle. Alors, c'est intéressant parce que c'est à la fois, et vous le décrivez très très bien dans votre livre « Congo, une histoire », David Van Reybroek, c'est à la fois une entreprise personnelle, mais en même temps, Léopold II ne se rendra jamais sur ce terrain congolais, c'est ce qui peut paraître aujourd'hui étrange, mais c'était aussi une entreprise de missionnaires. On y voit évidemment des chrétiens, qu'ils soient d'ailleurs protestants ou qu'ils soient catholiques, qui sont à la remorque derrière justement ces colonisateurs donc privés liés à Léopold II. Et au bout du compte, il va y avoir une véritable société coloniale qui va se créer. Comment on la caractérise, cette société coloniale belge, au tournant du 19e et du 20e siècle, juste avant, par exemple, que Léopold II abandonne sa colonie privée du Congo, David Van Reybroek?
Il faut surtout se rendre compte que c'est une société coloniale avec une présence européenne extrêmement, extrêmement limitée, et qui consiste, quelques milliers de personnes, même pas, et qui consiste d'autant plus essentiellement d'hommes. Il n'y avait presque pas de femmes dans ce contexte.
3000 donc, blancs au Congo, dites-vous, en 1906, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Et les seules femmes qui étaient là étaient en général des bonnes sœurs. Mmh. Et donc ça crée effectivement, il y a une mémoire d'histoire en Belgique qui a été réalisée par Amandine Laure, vraiment un texte magnifique qui montre comment le concubinat entre des hommes européens avec des femmes africaines a été une caractéristique très importante de la première décennie.
C'est une société violente aussi, cette société-là, parce que effectivement, pour faire cracher justement ce territoire congolais et lui faire donner ce qu'on veut lui faire donner, il va falloir mettre en œuvre une société extrêmement hiérarchisée, dure et difficile, qui va donc conduire les pays européens à se distancier de l'entreprise de Léopold II, parce que sur le terrain, évidemment, les ordres de rentabilité descendent au plus bas par beaucoup de violences, ce qu'on appelle la chicotte et tout un tas d'autres violences et terreurs, que ce soit d'ailleurs des terreurs donc physiques ou des terreurs sexuelles, par exemple sur les femmes congolaises, en l'occurrence David Van Reybroek.
Ben, tout à fait, la violence sexuelle n'est pas une invention des dernières années au Congo, on voit déjà à l'époque. Dans le contexte de la récolte du caoutchouc, les villages recevaient l'obligation de récolter un certain nombre de paniers de caoutchouc par mois. Et donc, il y avait des agents européens ou leurs assistants africains, très souvent des Nigériens d'ailleurs, qui venaient voir, qui venaient récolter et reprendre ce caoutchouc. C'était une forme d'impôt qui était imposé, un impôt en espèces. Et si le quotum n'était pas atteint, une punition extrêmement sévère frappait, était vraiment infligée à ce villageois. Et donc, il y a toute une série de témoignages, et j'ai pu trouver des voix africaines qui décrivent comment les choses se sont passées. Ils sont ici dans les archives à Bruxelles. C'est vraiment très, très, très impressionnant de voir une cruauté capitaliste. C'est vraiment ça. Toujours sous le cachet d'une entreprise philanthropique, on a vu peut-être le capitalisme le plus cruel des derniers siècles. C'était vraiment, vraiment très impressionnant. Et donc, il y a aussi l'histoire, on en parle très souvent, l'histoire des mains coupées. Les assistants africains des agents européens avaient reçu un certain nombre de douilles. Et pour éviter qu'ils allaient chasser avec leur fusil et leur douille, il fallait justifier chaque douille et chaque balle qui était tirée. Et une pièce justificative n'existait pas encore. Et donc, on avait inventé qu'une pièce justificative convaincante était la main coupée d'une personne qu'on avait abattue. Et donc, il y a eu toute une série des gens dont on a coupé la main après leur mort. Mais il y a aussi toute une série de gens, c'était quand même d'un cynisme incroyable. Il y a des gens qui ont évité, qui ont quand même gardé leur balle, leur douille pour la chasse. Ils ont coupé coupé les mains des gens en toujours vivants. Et donc il y a toute une série de témoignages, même dans les années 1940. Il y a des coloniaux belges qui décrivent que dans la région de l'Équateur, dans la forêt équatoriale, ils rencontrent des toutes vieilles personnes avec une seule main.
Alors, cette cruauté, vous la décrivez avec beaucoup de précision, David Van Reybrouck, dans votre livre sur le Congo. À l'époque, il faut dire, ça n'est pas Léopoldville, donc qui deviendra ensuite Kinshasa, qui est la capitale, c'est Boma. Vous nous faites une description assez étrange, intéressante de Boma, première capitale jusqu'en 1926. On traite cette semaine des années 20 et des années 30 de la colonisation. Donc, on est exactement au milieu de ces années 20 quand Boma perd le statut de capitale pour ce Congo. Donc, et c'est une capitale, dites-vous, de fonte et de fer, pourrait-on dire, puisque évidemment le climat est tel qu'on fait venir des fonderies européennes et belges, donc des églises en fer, en fonte, on fait venir des palais en fonte, on fait venir des maisons en fonte qui vont constituer cette ville de Boma avec ce caractère si particulier dans la région. On est très surpris de la rapidité avec laquelle, même s'ils sont peu nombreux, les colonisateurs belges vont s'inscrire dans le paysage, vont inscrire leur civilisation dans ce paysage de ce Congo qu'ils viennent tout juste de conquérir, David Van Reybrouck.
Ben, tout à fait. Et ce qui est magnifique, ce qui est beau, c'est que ces bâtiments, ces constructions sont toujours là. Donc ça montre bien que l'acier et la fonte est effectivement bien survécu. On avait une trouille blanche pour la fourmi blanche pour les termites, et donc pour éviter tout cela, on a construit des villes comme Boma, comme Banzangungu, des villes art nouveau presque, dans des matériaux de construction d'assemblage, un peu comme le jeu de mécano. Je ne sais pas si ça existe en France.
Oui, mais
mécano,
sûr.
Une espèce d'assemblage tout en fer, tout en acier comme ça.
Alors évidemment, à un moment ou à un autre, Léopold II doit abandonner sa colonie, la céder à son pays, à la Belgique. Oui. Et là, s'ouvre une autre phase, un peu différente, que vous nous décrivez avec beaucoup de précision encore, David Van Reybrouck, de cette colonisation du Congo belge. Vous dites la Belgique prend, à partir de ce moment-là, sa tâche de colonisateur au sérieux. Et donc, dès la fin des années 1900, donc aux alentours de 1908-1910, quand il récupère cela, eh bien, on va mettre ça de façon scientifique, on va coloniser de façon scientifique, que ce soit pour la médecine, oui, pour l'ethnologie. On va découvrir enfin ce territoire qu'on n'avait pas jusqu'alors véritablement découvert, mais qu'on avait simplement exploité, dites-vous.
Ben, tout à fait. Et effectivement, la Belgique a repris la colonie contre sa volonté. La Belgique n'avait aucune ambition coloniale, mais le pays a été bien forcé à le faire. Et la Belgique était sensible à cette critique internationale. D'ailleurs, parmi les critiques les plus sévères de Léopold II, il y avait plusieurs Belges aussi. Donc son entreprise a été critiquée. Il y avait vraiment une volonté de faire mieux. Et la conséquence a été qu'on a voulu faire une espèce de colonialisme scientifique. Et il y avait plusieurs voix qui disaient toutes les atrocités qui ont été commises sont aussi issues d'une ignorance totale des populations locales. Donc il y a eu une volonté de faire de l'ethnographie, de stimuler les recherches anthropologiques pour mieux connaître les gens avec qui on était en contact. Mais la conséquence tragique de tout ça a été une ethnographie extrêmement descriptive qui commençait à comprendre qu'il y avait des races et des tribus. Et donc on voit une ethnographie qui va étudier tribu par tribu et publier dans des monographies. Une monographie sur les Bangalas, une autre monographie sur les Bakongo, une monographie sur les Pygmées et tout ça. Et donc ça crée une espèce de, comment dirais-je, un effet de bétonner les différences ethniques.
Oui, vous dites que le Congo devient à ce moment-là un casier d'imprimerie, c'est-à-dire qu'effectivement, on a côte à côte, comme cela, comme on a des lettres dans un casier d'imprimerie, on a des tribus qui sont censées n'avoir eu aucune relation entre elles auparavant, qui sont censées ne pas se connaître, avoir leurs traditions particulières, et donc d'une certaine façon, qui sont fermées les unes aux autres, et on va les enfermer encore plus dans cette identité qu'on a créée, en l'occurrence, que le colonisateur a créée, David Van Reybrouck.
Parce que cette connaissance scientifique revenait vers les Congolais à travers des écoles missionnaires. Et j'ai retrouvé, et j'en parle dans mon livre, toute une série de chansons et de cantiques qui étaient appris par les missionnaires, où les gens, où les petits-enfants chantent leur identité et le comparent avec l'identité des autres tribus. Mmh. Nous sommes comme ça, les pygmées sont différents, ils ne se lavent pas. Donc toute une série de stéréotypes. À la fin du 19e siècle, il n'y avait aucun enfant congolais qui habitait la mer, qui connaissait, qui savait qu'il y avait des pygmées. Il n'y avait même aucune idée. Et tout d'un coup, des enfants à Boma ou dans le village du Bas-Congo chantent des chansons qui dérivent, dans des termes parfois très stéréotypiques, les pygmées. Et donc, on voit vraiment comment cette colonisation plus scientifique, elle était vraiment là avec les meilleures intentions, a stimulé un effet de tribalisme extrêmement important avec des conséquences extrêmement graves. Parce que le Rwanda est devenu, après la Première Guerre mondiale, c'était une coloniale allemande, mais c'est la Belgique qui l'a repris. Là aussi, on a un peu suivi la même logique à ce point-là qu'à un moment donné, dans les années 30, on obligeait à mettre l'identité ethnique dans le passeport. Là, on indiquait que c'était Hutu, Tutsi ou Twa, c'est-à-dire pygmée. Mmh. Et donc là, on a bétonné vraiment les différences sociales avec la conséquence que 60 ans plus tard, il y a eu un génocide. Ce n'est pas justement suite à ça, mais on a vraiment vu comment le colonialisme a fait augmenter le tribalisme. Et je pense que c'est une conclusion extrêmement, extrêmement importante. On pense toujours que le tribalisme était quelque chose de précolonial et qu'au fur et à mesure de l'époque coloniale, ça va se diminuer. Alors c'est bien le contraire. Ça augmente à partir des années 20 et ça connaît une espèce d'apogée dans les années juste avant l'indépendance.
Alors, Vous donnez plusieurs exemples dans votre livre « Congo, une histoire », David Van Reybrouck. Par exemple, ce manuel des frères maristes en Lingala. Les Bangalas sont à Makanza, Mobeka, Lisala et Bumba. Ils sont gros, ils font des tatouages au visage et aux oreilles. Ils enlèvent les cils de leurs paupières et liment leurs dents. Ils n'ont pas peur de la guerre. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de Bangalas soldats de l'État? Ils sont intelligents. Les Baboto et Basoko sont les frères des Bangalas. Ils déforment leur visage par des tatouages. Ils fabriquent des gros mortiers et des bonnes pirogues, forgent des lances et des machettes. Ils tuent beaucoup de poissons. C'est ce qu'on pouvait lire donc dans un manuel des frères maristes, donc au tout début du XXe siècle. Une façon comme ça de qualifier en quelques lignes chacune des populations qui étaient censées donc composer ce Congo tout juste belge, en l'occurrence David Van Reybrouck.
Je pense de plus en plus qu'il y a aussi un effet belge dans tout ça. Il faut savoir que la majorité des missionnaires au Congo, c'était des Flamands, alors que l'administration coloniale était essentiellement aristocratique, donc francophone. Et je pense que pour les missionnaires, on voit très bien qu'ils ont un peu projeter leur regard belge sur la réalité africaine en Afrique centrale. Et leur description de ces tribus et leur définition de la réalité sociale est vraiment en projection de la différence entre les Flamands et les Wallons, et les Bruxellois et les francophones. Mmh. C'est vraiment, on a vraiment transmis un regard linguistique essentialiste à un contexte qui était beaucoup plus liquide, beaucoup plus fluide dans l'époque précoloniale.
Alors, dans ces années, donc, premières années de la colonisation belge à proprement parler, puisqu'auparavant, c'est une colonisation du souverain belge Léopold II, dans ces années 20 qui nous intéressent, et on va s'attarder sur ces années 20, donc dans la dernière partie de cette émission avec vous, David Van Herrebroek, il y a bien évidemment les conséquences de la Première Guerre mondiale. Vous l'avez cité, la récupération des territoires voisins du Rwanda et du Burundi, bien évidemment, après la défaite de l'Allemagne. Il y a aussi la mise en exploitation plus systématique encore de ces territoires donc congolais, la découverte du diamant dans le Kassai, toutes les capacités que donc ce territoire a au point de vue minier, et donc le développement de façon exponentielle de toutes les mines du Congo en l'occurrence.
Tout à fait. La Belgique avait beau dire après 1908, après la reprise de la colonie, qu'on allait faire mieux, qu'on allait faire autrement. La Première Guerre mondiale a vraiment ralenti cette volonté, ainsi que la grippe espagnole qui a déclenché en 1918, qui a fait vraiment un tas de morts. J'ai encore d'ailleurs pu parler à des gens, des tout vieux personnes qui se souvenaient que leurs parents ont parlé de la grippe espagnole de 1918. Et donc on voit que malgré la volonté de faire mieux, l'exploitation continue. Et la Belgique a toujours un peu, parce qu'à un moment donné, le moment où la colonie devient une colonie vraiment belge, ça devient aussi une affaire de parlementaire. Mmh. Et donc on a toujours eu de propagande pour faire passer l'entreprise coloniale. Et l'idée, c'était toujours que la colonisation belge à partir de 1908 jusqu'à 1960 était un long fleuve tranquille. Alors si on regarde, si on étudie en plus grand détail ce qui se passe, on voit qu'il y a des contestations locales, africaines, depuis le tout début. Déjà dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, donc bien avant la lutte pour l'indépendance dans les années 50, on voit des manifestations de mécontentement extrêmement importants pendant cette époque coloniale.
Et il faut dire que effectivement les conditions de vie ont profondément changé. Vous l'avez expliqué. D'abord les exploitations du caoutchouc, la chicotte et donc le caractère extrêmement violent de cette première exploitation. Puis ensuite la création de villages miniers ou de villes minières et donc un autre mode de vie pour tous ceux qui, 40 ans plus tôt, vivaient de façon très différente. En très peu de temps, le temps d'une courte vie, eh bien, on a vu changer le paysage aussi du Congo.
Totalement,
c'est une,
oui.
C'est une entreprise à marche forcée, sans faire de jeu de mots, en l'occurrence, David Van Herrebroek.
Ben oui, c'est assez impressionnant de voir cette industrialisation extrêmement rapide, tout d'un coup, parce qu'à un moment donné, donc d'abord, les richesses étaient l'ivoire et le caoutchouc, et puis on découvre qu'il y a des richesses dans le sous-sol tout à fait impressionnantes, et on commence avec une industrialisation rapide, et il faut savoir que jusque dans les années 40-50, le Congo était le pays le plus industrialisé de l'Afrique centrale, voire de l'Afrique subsaharienne. Donc on voit vraiment, surtout dans certaines régions, comme le Katanga, dans le sud, dans la savane, où on trouve le cuivre, le manganèse, d'ailleurs des ressources qui ont joué un rôle primordial dans les deux guerres mondiales. Les obus qu'on a utilisés le long de la Seine et qu'on a utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale contenaient très souvent du cuivre katangais, donc congolais. Et donc on voit effectivement toute une série de dispositifs qui se mettent en place pour permettre l'exploitation industrielle, économique de ce sous-sol.
Par exemple, la naissance d'une économie monétaire, c'est-à-dire que le salariat apparaît à ce moment-là.
Oui, et c'est assez impressionnant de voir comment on a vraiment obligé les populations à se monétariser. Parce que les impôts, avant, c'était des impôts en forme de travail, de labeur ou de caoutchouc. Et tout d'un coup, les gens sont forcés à payer leurs impôts, suite à laquelle les gens vont commencer à s'embaucher. Il y a eu des migrations forcées très importantes pour aller travailler dans les mines. Déjà dans les années 30, le Rwanda était surpeuplé, le Katanga était très sous-peuplé. On a transféré énormément de gens de plusieurs région du Kasaï et du Rwanda pour aller travailler dans les mines katangaises.
Alors vous expliquez, David Van Riebroeck, qu'en fait, on a longtemps raconté cette histoire du Congo colonial comme un long fleuve tranquille, mais vous dites sous cette façade de tranquillité, de caractère paisible de ce qu'était le Congo colonial, il y a une extrême nervosité, expliquez-vous, de l'administration coloniale. Comment peut-on l'expliquer, cette nervosité? Parce que tout compte fait, c'est un territoire béni des dieux, on voit bien toute l'exploitation qu'on peut avoir de ce territoire pour un petit pays européen qui s'appelle la Belgique. Donc on pourrait se dire, bien voilà, ça se passe bien, on essaye de développer encore plus ce pays pour gagner encore plus d'argent, même si les conditions de travail qu'on impose aux Congolais sont des conditions drastiques et terribles. Au bout du compte, il y a tout de même une grande nervosité de l'administration coloniale.
Ben, la réponse est très simple, c'est que les Blancs avaient peur des Noirs. C'est aussi simple que ça. Et donc, on manifestait un visage serène, calme, tout-puissant, mais derrière cette façade, cette apparence-là, il y avait une nervosité, une trouille blanche des Noirs. Voilà, je ne peux pas dire autrement.
Et pourquoi? Parce qu'on avait pourtant, par exemple, intégré ces fameux soldats, donc ces guerriers qu'on avait déterminés comme étant des très bons guerriers dans une force publique. Donc, on avait, d'une certaine façon, africanisé les forces de l'ordre et malgré tout, on avait peur.
Ben oui, tout à fait, tout à fait. Et on peut dire à juste titre, parce qu'il y a eu, suite à leur exploitation cruelle, il y a très souvent eu des moments
rébellions.
De contestation, des rébellions, parfois très localisées et tout ça. Mais il y a eu quelques moments très importants, surtout dans les années 20-30, il y a eu des moments très importants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a très souvent mal compris cette contestation, parce que la contestation souvent prenait une forme qu'on ne connaissait pas. Il faut comprendre qu'à l'époque, une contestation sociale en Europe était très souvent une contestation socialiste ou syndicale, soit quelque chose qui s'exprimait littéralement à travers le travail. Les grèves, les manifestations, les pétitions, tout ce genre d'actions étaient complètement inconnues dans le contexte colonial. Et ce qu'on voit, c'est fort intéressant, et c'est de voir l'unicité et l'originalité de la critique anticoloniale formulée par des populations locales africaines, parce que le mécontentement s'exprime à travers la religion et l'ethnicité. Et c'est fort original. On voit dans les années 20 l'émergence d'une figure emblématique de l'histoire congolaise qui est Simon Kimbangu, qui pendant quelques mois, en 1921, va prêcher dans le Bas-Congo, dans un contexte très comparable au contexte de Jésus-Christ il y a 2000 ans sous l'occupation romaine en Palestine.
On le compare d'ailleurs encore aujourd'hui quand on va au Congo, on le compare encore à Jésus-Christ. Il a cette figure christique qui lui colle à la peau, si je puis dire, après sa mort, donc qui est donc celle d'être une sorte de nouveau Jésus-Christ africain, pourrait-on dire.
Ben, tout à fait, tout à fait. Et donc, comme le Christ, son témoignage, sa vue publique a été extrêmement courte, il a prêché pendant 4 mois, mais des milliers et des milliers de gens ont quitté, des Congolais ont quitté leur travail, ont quitté leur terrain, où ils étaient forcés à cultiver un certain nombre de cultures. Et donc, ils quittent le travail, ils abandonnent, alors que son discours n'est pas forcément anticolonial, c'est curieusement, mais il présente un alternatif, une forme de libération spirituelle. Il guérit, il y a toute une série de témoignages comme quoi il a guéri. Moi, j'ai encore rencontré quelqu'un qui avait 100 ans, et il disait, moi, j'étais bossu, enfant de 13 ans, j'étais bossu, et papa Simon Kimbangu m'a guéri de ma bosse. Il a dit, dans un terme vraiment biblique, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et voilà, il était là, et effectivement, à 100 ans, il était plus bossu. Et donc, il y a toute une série de témoignages comme ça. Il y a un rêve d'être libéré, il y a un espoir. Et quand on voit la rapidité avec laquelle l'engouement pour cette figure emblématique de Simon Kimbangu s'est fait, c'est assez impressionnant. Et ça montre à quel point il y a eu un mécontentement, il y a eu un ressentiment très important à l'époque coloniale. Alors que les autorités coloniales l'ont emprisonné, ils l'ont condamné à mort. Il a été gracié par le roi et finalement, il a passé le reste de sa vie en prison. Je crois qu'il a passé 31 ans en prison, qui est quand même une incarcération plus longue que celle de Nelson Mandela.
Oui, alors on voit bien la répression aussi qui s'abat sur les Kimbanguistes. Donc un prêche de 4 mois, expliquez-vous, en 1921. Et puis ensuite, une répression qui va durer tout le temps d'ailleurs, qui va durer encore jusqu'à l'indépendance et même après. Ces Kimbanguistes sont enfermés dans des wagons, portes fermées, envoyés à l'autre bout du pays, sont massacrés pour certains, meurent dans les transports en l'occurrence. C'est une approche extrêmement brutale. Et au bout du compte, tout un tas de surgeons, de redémarrages de religions semblables qui sont nés de ce Kimbanguisme et qui vont se multiplier tout au long des années 20 jusque dans les années 30 et qui montrent bien effectivement qu'il y a une autre manière de résister à l'occupation que de prendre les armes. Il y a cette manière de croire en des prophètes qui se lèvent et qui disent effectivement de plus en plus radicalement qu'il faut se séparer de ce colonisateur belge.
Tout à fait. Je pense qu'il faut comprendre que la société congolaise à l'époque, la société africaine à cette époque-là, est une société profondément spirituelle. Et on ne peut pas comprendre les enjeux sociaux et économiques si on ne prend pas en compte l'importance de la spiritualité, de la religion, du mysticisme dans ce contexte-là. Et donc voilà, dans mon livre, je parle non seulement de kimbanguisme, mais toute une série d'autres mouvements religieux.
Le gnosisme, le mpadisme ou le kakisme et d'autres qui se succèdent et qui sont de plus en plus radicaux les uns après les autres, visiblement. Chaque fois qu'on tente d'éradiquer une de ces religions en train de naître, la suivante est encore un peu plus dure vis-à-vis du colonisateur belge.
Tout à fait, mais non seulement vis-à-vis du colonisateur belge, de l'autre côté du fleuve Congo, il y a eu un phénomène similaire avec André Mwatswa, qui est un peu le Simon Kimbangu brazzavillois.
Et qui a été exilé par les Français au Tchad, où il est mort.
Exactement. Donc on voit vraiment comment, et c'est fort intéressant, on a très souvent mal compris cette contestation à travers la spiritualité.
Il faut dire que cette église qui avait accompagné la colonisation belge avait fait très peu de cas, c'est le moins qu'on puisse dire, des croyances locales et des religions locales. Vous décrivez avec beaucoup d'intérêt pour le lecteur la destruction des fétiches, racontée par exemple un missionnaire brugeois qui dit « Pour ne pas contrarier la population et ne pas gêner nos recherches, nous ne voulions pas mal nous comporter vis-à-vis de cette immonde saloperie. » C'est donc la croyance en l'occurrence. « Nous devions contenir notre haine et ce n'était qu'occasionnellement, quand nous étions seuls, que nous donnions discrètement un bon coup de pied là-dedans pour que tout le bazar s'écroule. Si seulement nous pouvions bientôt œuvrer plus ouvertement et remplacer dans tout le Roua, dans tous les villages, long de toutes les rues, tous ces signes du diable et cette camelote du diable par la croix rédemptrice, ah, que de travail pour si peu de planteurs de croix », expliquait donc ce missionnaire brugeois Gustave Van Acker, tel que vous le racontez dans votre livre, David Van Reybroek. Donc ça avait été très violent aussi, l'arrivée de ces missions chrétiennes dans ce Congo à la fin du 19e siècle.
Tout à fait. Alors, c'est bien dommage que vous n'êtes pas brugeois comme moi, parce que dans l'original néerlandais, il écrit vraiment dans le dialecte brugeois, et c'est d'une brutalité linguistique aussi vraiment inouïe. Mais je trouve que la traductrice l'a très bien fait. D'ailleurs, elle vient de remporter un prix pour sa traduction, et je suis extrêmement content, parce que c'est une traduction exceptionnelle. Voilà, tiens à le dire.
Il faut dire effectivement que c'est un livre, non seulement, enfin, moi je ne lis pas évidemment le néerlandais, mais dans sa traduction extrêmement vif, et que cette traduction d'Isabelle Rosselin rend bien compte de votre style, en l'occurrence, David Van Reybroek.
Très bien, j'étais très content de pouvoir travailler avec elle. Mais effectivement, pour revenir à la question, on voit une violence, surtout dans le 19e siècle. Un moment plus tard, quand on regarde les années 20 et tout ça, on voit toujours une certaine ambivalence des missionnaires catholiques et protestants entre une volonté de détruire ce qui était considéré comme païen et aussi une fascination ethnographique. On a eu vraiment certaines ambivalences. Il y a des collections de fétiches très importantes dans des monastères belges. belge jusqu'à nos jours. Et ça montre à quel point il y a vraiment cette attitude ambivalente.
Paradoxale.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, un des slogans des Kimbanguistes, c'était « les blancs seront noirs et les noirs seront blancs ». Et là, on voit bien effectivement la menace derrière une telle parole. C'est-à-dire qu'effectivement, un jour, les blancs ne pourront plus rester sur ce territoire du Congo. Et c'était évidemment prémonitoire de ce qu'elle est arrivée après la Seconde Guerre mondiale, dans ces années 20, David Van Reybrouck.
Ben, tout à fait. Et la phrase que vous venez de citer était la phrase la plus inquiétante. Je pense que Kimbangu a été condamné à mort à cause de cette phrase-là. Alors que je pense qu'il parlait justement d'une forme d'égalité, de solidarité, d'échange et de fraternité. On peut interpréter la phrase de plusieurs façons. Quand on voit le reste de l'œuvre missionnaire évangélique de Simon Kimbangu, c'est clair que voilà, il n'y avait pas une violence explicitement anticoloniale dans tout ça. Mais je trouve que cette expression liturgique de contestation sociale est fort intéressante, d'autant plus que quelques années plus tard, début des années 30, on va voir une forme, il y a eu un conflit majeur dans le Kwilu, ou dans la récolte de l'huile de palme, où une contestation des ouvriers a pris la forme ethnique. Donc on voit comment la spiritualité et le tribalisme, si vous voulez bien, ont été des porteurs, des vecteurs des contestations sociales. Ce n'est que dans les années 40 qu'on commence à voir la première grève au sens classique du terme.
Et puis, nous devons conclure avec vous, David Van Reybrouck. C'est bien dommage parce que votre livre, évidemment, va beaucoup plus loin que ces années 20 et 30 sur lesquelles nous nous centrons pour cette série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire. Mais évidemment, oui, il va y avoir la crise de 29 et cette crise de 29 qui va marquer le territoire congolais comme la Première Guerre mondiale l'avait marqué. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, eh bien, le Congo est entré dans le grand jeu mondial, d'une certaine façon, et n'est jamais seul à décider de son destin et de son avenir, David Van Reybrouck.
Oui, mais c'était déjà le cas depuis la fin du 15e siècle. Depuis que les Portugais sont arrivés pour acheter des gens, le Congo a fait partie de l'économie capitaliste mondiale. Et jusqu'à nos jours, c'est un pays qui a eu toujours tous les atouts économiques que le monde désirait, mais la population locale n'a toujours pas pu profiter de ses propres richesses.
Un dernier mot qui m'a surpris, c'est l'ouverture de cet espace congolais à l'espace colonisé au sud par les Britanniques en particulier. Vous expliquez en fait que eh bien, le Katanga est relié dès ces années-là, dès ces années 20, même les années 10, à l'ensemble des territoires colonisés par les Britanniques. Et donc, on l'imagine ouvert par l'océan vers l'Europe, mais il est ouvert aussi vers l'Afrique du Sud et vers le sud du continent africain.
Ah, c'était une question de chemin de fer. C'était beaucoup plus facile de relier Elisabethville, Lubumbashi actuel, avec l'Afrique du Sud. Il y avait déjà le chemin de fer de Rhodésie, donc de Zimbabwe et Zambia, qui reliait jusqu'au Cap et Pretoria et Johannesburg, que de relier Lubumbashi avec Kinshasa. Mm-hmm. Et du coup, jusqu'à nos jours, on voit comment Lubumbashi est une ville extrêmement différente de Kinshasa. Et on voit toujours une certaine présence sud-africaine, en quelque sorte. Je trouve qu'il y a une autre ambiance, une autre atmosphère. Des gens, l'urbanisme, l'architecture, la vie publique est bien différente de ce qu'elle est à Kinshasa.
Merci David Van Reybrouck. On ne peut que conseiller à la lecture de Congo une histoire, ce livre paru récemment chez Actes Sud, qui a, je crois, eu un énorme succès chez vous, en Belgique. J'ai cru comprendre que vous aviez eu non seulement tous les prix, mais également un succès populaire considérable. Et ça le mérite parce que c'est un livre qui nous plonge avec un talent de description absolument formidable dans cette histoire longue du Congo et nous fait découvrir ce pays d'une autre façon. Merci d'avoir accepté ce jeu de vous cantonner alors que vous traitez des milliers d'années d'histoire du Congo dans ce livre à ces quelques dizaines d'années du début du XXe siècle, David Van Reybrouck.
Je vous en prie. Au revoir.
Voilà, demain, nous continuons cette semaine consacrée aux colonisations comparées pendant les années 1920-1930. Le documentaire portera sur El Wafi, un marathonien qui remporta en 1928 le marathon lors des Jeux Olympiques d'Amsterdam. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres émissions de la Fabrique de l'Histoire, allez donc sur notre site www.franceculture.fr. Vous pouvez y laisser vos commentaires, ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Vous pouvez également nous écrire à fabrique@radiofrance.com.